Parce que la recherche peut parfois paraître un peu compliquée, cachée, éloignée des préoccupations du quotidien. Dans La Voix du chercheur, un sujet, un chercheur en éco-gestion, un podcast pour tout comprendre, nous vous invitons à rencontrer ceux qui font la recherche aujourd'hui et qui impacteront le monde de demain. Doctorante Olemna, le laboratoire d'économie et de management de Nantes Atlantique, notre première invitée dans La Voix du chercheur est diplômée du master conduite de projet en développement durable, environnement, mer, énergie, de l'IAE Nantes, économie et management bien sûr. C'est d'ailleurs naturellement qu'elle a poursuivi son parcours universitaire dans la recherche avec un sujet de thèse inscrit dans l'axe « Défis environnementaux, mer et énergie », l'un des quatre axes développés au LEMNA. Cette doctorante, c'est Lucie Poinet. Bonjour Lucie, bienvenue dans La Voix du chercheur, on est ravis de vous recevoir.
Bonjour Céline, merci de m'avoir proposé de participer à ce podcast. Donc je suis ravie de faire la première, j'espère que ce sera intéressant pour tout le monde.
On n'en doute pas. Alors Lucie, rentrons dans le vif du sujet, la recherche, les chercheurs, les doctorants, vous avez certainement déjà entendu ces préjugés, c'est un monde à part, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ce sont des gens qui réfléchissent sur des choses qu'on ne comprend pas vraiment. Je vous propose d'entendre un extrait de notre micro-trottoir. À votre avis, la journée type d'un chercheur, c'est quoi ?
Aucune idée.
Je sais pas.
Non. Bah moi, je dirais que c'est comme une journée type à la fac, sauf que... Donc il n'y a pas de, vraiment de... Moins de cours, peut-être, plus de recherche en autonomie. Et des questionnements autonomes aussi.
Peut-être beaucoup le nez dans les bouquins, enfin peut-être limite un peu déconnecté.
Honnêtement, je saurais pas dire. Parce que franchement, ça dépend sur quoi ils font des recherches déjà. Est-ce qu'ils se rendent dans des lieux pour faire des questionnaires ou ce genre de choses, ou est-ce qu'ils passent juste leur journée à chercher des choses sur Internet ou dans des livres? Je n'en ai absolument aucune idée.
Plein de choses intéressantes. Déjà pour parler de mon expérience quand. Je parle de ma thèse autour de moi, on me dit ça va les cours, alors que globalement j'ai pas du tout de cours. J'ai quelques formations qui sont obligatoires dans le cadre du doctorat. Déjà en tant que doctorant, ce qu'il faut savoir c'est qu'on apprend le métier de chercheur. Donc on est et après qu'est-ce que le métier de chercheur? Le chercheur il a pour objectif de répondre à une question de recherche. Je dirais qu'il y a deux manières de trouver une question pertinente de recherche. Soit on se pose une question et on vérifie dans la littérature si elle a été répondue. Et donc la littérature, c'est ce que je disais, c'est les travaux de recherche qui ont été précédemment publiés. Soit on peut s'imprégner d'un sujet dans la littérature et trouver des questions qui n'ont pas encore été répondues. Ça, c'est une deuxième possibilité. Dans les deux cas, donc il y a un gros travail de revue de littérature. C'est-à-dire qu'il faut vraiment beaucoup lire pour essayer d'emmagasiner toutes les connaissances possibles sur le sujet et voilà pour connaître les tenants et les aboutissants sur la question. Donc, ce qui c'est moi depuis le début de ma thèse, donc j'ai fait beaucoup de revues de littérature, j'ai beaucoup lu beaucoup de travaux de recherche pour trouver effectivement une question de recherche et pour répondre à cette question de recherche, j'ai décidé de faire une expérimentation en laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'une expérimentation en laboratoire ? C'est j'ai fait venir des gens au laboratoire. Alors le labo, c'est pas des blouses blanches et des lunettes en plastique.
C'est ce que j'allais dire parce que on voit bien ce que c'est que la recherche en labo, par exemple en médecine, ce genre de choses. Mais on a un petit peu du mal peut-être à percevoir qu'est-ce que c'est que la recherche en éco-gestion dans un laboratoire. Pourquoi un laboratoire ? Enfin, ça paraît peut-être un peu étrange.
En tout cas, un laboratoire d'éco-gestion, c'est des bureaux, des ordinateurs, des chaises, voilà, tout plus très très classique. Et voilà, pour ces expériences-là, il suffit d'une salle informatique, il suffit d'ordinateurs et puis d'un logiciel et on fait venir des gens derrière les ordis. Et ils viennent tester. Moi, c'était un jeu de bien public que j'ai fait. Ils viennent tester le jeu. Et nous, ce qu'on évalue, c'est dans ce jeu, il y a différents contextes et voir comment ils réagissent face à ces différents contextes. Voilà. Ensuite, moi, je recueille une base de données. Et après, j'analyse cette base de données. Donc, ça prend énormément de temps déjà de traiter la base de données. Ensuite, il faut connaître les logiciels d'économétrie. Une fois qu'on a traité ça, enfin, en tout cas, moi, une fois que j'ai traité ma base de données, je peux enfin avoir analyser mes résultats. Et une fois que j'ai analysé mes résultats, je peux commencer à rédiger mon papier de recherche pour ensuite pouvoir le présenter en conférence. Et une fois que le présenter en conférence permet en fait d'avoir des retours critiques de la part d'autres chercheurs pour améliorer le papier, réfléchir peut-être qu'on peut creuser sur d'autres résultats, etc. Et une fois que j'ai présenté en conférence, que j'ai vraiment amélioré mon papier et que il arrive au stade on va dire là où il est le plus réussi, mon objectif final c'est de le soumettre dans un journal de recherche. Et idéalement dans un journal de rang 1, donc ça c'est le plus haut rang des journaux de recherche. Et voilà, je permets d'être accessible au grand public et plutôt au public de chercheurs.
Lucie, vous avez commencé votre thèse en octobre 2020, mais dites-moi, avant d'en arriver là, quel a été votre parcours? Comment on se réveille un jour en étant doctorant?
Dans mon profil, je pense que je suis plutôt quelqu'un de curieuse et qui a très très envie d'apprendre. Je me nourris beaucoup de livres, mais plutôt j'aime bien les articles de recherche vulgarisés depuis petite, par exemple les sciences et vie junior, des choses comme ça. Donc assez jeune, je lisais des choses comme sur ces sujets-là. Et après, dans mon parcours, c'était pas du tout linéaire. J'ai fait quand même un bac scientifique, donc j'avais quand même cette appétence pour les sciences, la méthodologie scientifique, on va dire, des lycées, même avant. Et ensuite, j'ai fait une licence de gestion. J'ai fait un master 1 en management général. Et j'ai fait une année de césure et pendant ces années-là, j'ai pu faire un stage en comptabilité et 3 stages en ressources humaines et à chaque fois c'était « Ah non, c'est pas pour moi, non, c'est pas pour moi, non, c'est pas pour moi ». Et mon dernier stage en ressources humaines, je savais déjà que je voulais changer. Je savais que je voulais plutôt me rediriger vers les sujets environnementaux, c'était ma réflexion. Et j'ai eu la chance de le faire à Tahiti, donc j'ai pu profiter de cet environnement naturel magnifique, et là c'était un peu, vraiment ça m'a poussée encore plus dans cette voie-là. Et je sais pas si c'est du hasard, mais en tout cas j'ai postulé Master Économie de l'Environnement de l'IAE de Nantes. Et j'étais acceptée. Et là, c'est vraiment au cours de ce master-là, on m'a ouvert les portes de la recherche, parce que j'avais pas eu cette opportunité-là avant. C'est surtout par le biais des cours donnés par des enseignants-chercheurs. J'ai beaucoup aimé la microéconomie et aussi les méthodologies d'expérimentation. En master 1 aussi, j'ai fait un stage en recherche et ça a vraiment confirmé mon appétence pour le sujet. Et enfin, en Master 2, j'en ai profité pour monter mon dossier de thèse, qui a été accepté, et je me suis réveillée un matin, chercheuse, au 1er octobre 2020. Voilà.
Maintenant que nous vous connaissons un peu mieux, il est temps de nous en dire un peu plus sur ce qui occupe toutes vos réflexions, vos jours, vos nuits, votre sujet de thèse, Lucie. Avant de vous entendre, écoutons ensemble la lecture de votre sujet par nos interviewés.
Alors, la fourniture privée de biens publics environnementaux, mes axes de réflexion convergents autour de l'influence des facteurs de motivation intrinsèques et extrinsèques, à savoir psychologiques et sociologiques, dans l'émanation de comportements économiques prosociaux. J'ai rien compris.
Moi non plus.
C'est pas évident à prononcer. Je sais pas si je l'ai bien dit. Intrinsèque et extrinsèque. Ah non, c'est extrinsèque. Intrinsèque et extrinsèque. Ouais, je me suis planté.
J'ai pas forcément tout compris. C'est très long. C'est très long.
Alors, réaction après ces lectures.
J'ai fait une phrase ultra complexe. Je suis d'accord. Mais le début est toujours le début du sujet est toujours valable. En fait, ce qu'il faut savoir en thèse, c'est qu'on a un sujet qu'après il peut toujours un peu dériver en fonction de ce qu'on lit, des questions de recherche qui émanent, etc.
C'est pas toujours évident, du coup, de comprendre les formulations des chercheurs. Donc, Lucie, imaginez, j'ai 10 ans, comment vous me présentez votre sujet? Vous cherchez quoi?
Donc, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ce qui incite les gens, comme vous et moi, à plus contribuer à l'environnement, pour le dire avec des mots simples. Et les éléments qui composent l'environnement, on les appelle les biens publics, comme l'eau ou l'air, puisque tout le monde peut les consommer. Et si je consomme de l'air, je ne dérange pas votre consommation personnelle d'air. Voilà. Maintenant, pour que ces biens publics restent de bonne qualité, voire même que leur qualité s'améliore, il est nécessaire que chacun y contribue. Donc, par exemple, il est bien que tout le monde recycle pour revaloriser les déchets. Mais à l'échelle individuelle, par exemple, vous, Céline, peut-être que bah, vous n'avez pas le temps, pas l'envie, vous ne connaissez pas les bénéfices du recyclage, ou bah, vous entendez que de toute façon, tout finit par être brûlé, voilà, comme la poubelle noire. Et donc, vous ne recyclez pas. Et vous dites que, de toute façon, que vous recycliez ou non, sur la quantité de personnes qui recyclent, ça ne change pas grand-chose. Dans ce cas, on dit que vous adoptez un comportement de passager clandestin. Et donc, à partir de ce constat, que voilà, s'il y a des personnes qui sont passagers clandestins, l'objectif de ma thèse, c'est de limiter ce comportement pour que les individus contribuent de manière plus optimale pour les biens publics environnementaux. Et après, voilà, il y a différentes manières d'inciter les gens à plus contribuer aux biens publics environnementaux. Des fois, il suffit juste de les informer, de donner certaines informations peut être bénéfique pour plus les inciter.
Dans la démarche.
Voilà. Toutefois, faut que, même l'utilisation d'informations, des fois, ça peut, il faut faire attention parce que certaines personnes, réagissent, ont le comportement inverse que ce qui était attendu, et c'est là tout l'optique de la recherche, de trouver la bonne information qui cible la bonne personne.
C'est très clair. Merci beaucoup pour ces éclairages justement sur ce que tu fais. Mais non, finalement, et c'est tout le but de ce podcast, c'est d'expliquer simplement ce que font les chercheurs. Alors, on l'a vu, il y a un vrai fil rouge dans votre parcours, la question de la transition écologique, de l'environnement. En tout cas, ça a l'air d'être au cœur de vos préoccupations. D'où vient cet intérêt? Pourquoi ce sujet?
Je pense qu'il y a une part de mon enfance où je viens d'un milieu un peu rural, donc la question des ressources naturelles, je pouvais l'observer. Mes parents étaient fleuristes, donc j'étais un peu quand même sensible à la nature et à l'environnement. Naturellement, je pense que ça s'est transmis comme ça. Après, sur la question scientifique, donc ce que je disais, c'était le côté un peu curiosité, soif d'apprentissage. Et et je pense qu'il y a aussi une part économique comportementale, donc qui est très forte dans ma thèse. Et je pense qu'en fait, vu que je suis naturellement je pense que j'ai un comportement naturellement écolo. Et je constate qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ce n'est pas le cas, et je me suis toujours demandé comment inciter ces personnes-là à l'être plus. Donc c'est juste, je pense que c'est forcément pas désintéressé quand on s'intéresse, quand on se pose une question de recherche, c'est forcément pas désintéressé malgré. Bien sûr, en recherche, on prône la neutralité, mais je me pose des questions qui moi m'intéressent personnellement, évidemment.
Alors, je vais vous faire écouter un extrait du micro-trottoir. Vous sentez-vous concerné par le tri et est-ce que c'est facile de le faire ?
Sur le campus, je sais qu'il n'y a pas vraiment d'endroit pour trier ou quoi. Les poubelles, c'est que... je sais pas comment ça se dit, genre tout dedans. Donc oui, je me sens concernée. Mais après, je sais qu'en entreprise, on fait plus de tri. Mais sur le campus, j'ai pas l'impression en tout cas.
Bah moi aussi, je me concernais parce que déjà chez nous, moi je le faisais depuis tout petit. C'est un truc qu'on a toujours appris à faire. Je vois ici dans le campus, il y a juste une poubelle bleue, une poubelle jaune, mais je crois que personne ne sait vraiment ce qu'il faut mettre dans laquelle.
Pour moi, le recyclage est plus symbolique et on peut l'utiliser derrière justement pour impulser d'autres actions pro-environnementales. Ça fait d'ailleurs partie de certains sujets de recherche. Par souci de cohérence, les personnes se disent « je recycle, donc je fais attention à l'environnement, donc je peux aussi faire une autre action ». Voilà.
C'est un cercle vertueux, un petit peu.
Exactement.
Donc, signalétique confuse, tri et collecte insuffisant, les très mauvais chiffres du recyclage du plastique en France. C'est un extrait d'un podcast, d'un enregistrement qui est passé sur France Info. Est-ce que vous auriez des choses à dire par rapport à ça? Comment vous expliquez peut-être ou pas ces mauvais chiffres et comment on fait pour les faire évoluer?
Alors, je pense que dans l'extrait du micro-trottoir, on a quelques éléments de réponse. Sur le fait que les gens pensent que les déchets ne sont pas revalorisés derrière, que en fait faire cette action n'a pas d'impact.
Après, ce qui est sûr, c'est qu'a priori, il y a quand même un intérêt. En tout cas, on a la sensation que il y a peu de monde qui se sentent complètement désintéressés de la chose. Ou je me trompe?
Non, c'est vrai. Je pense que la plupart des personnes, encore une fois, c'est la dans, je dirais, sur la question écologique, je dirais que c'est la base de recycler. Donc, dans la norme, on recycle. Et là, il y a de plus en plus de questionnements, je pense, sur le recyclage, sur le fait que ce soit pas utile, qu'il n'y ait pas d'impact. Et ça doit démotiver certaines personnes à recycler. Donc, je pense que pour les, donc il y a différentes manières pour les remotiver à recycler. Ça peut être justement, c'est mon sujet de thèse, s'intéresser aux normes sociales. Donc, on peut leur donner l'information des normes sociales en disant.
Alors, se dire quoi les normes sociales ?
Je vais expliquer un petit peu. Les normes sociales, on peut soit juste donner l'information du comportement des autres. Donc, par exemple, en disant dans votre quartier, 95% des gens recyclent. Voilà, et pourquoi pas vous, en gros.
Et dans une attitude un peu positive, quoi. Pas forcément punitive, entre guillemets.
Ouais, c'est ça.
Plutôt, ouais, positif.
C'est ça, exactement, c'est positif. Ce qui fait que les individus ont tendance à se conformer. On a tendance à se conformer naturellement, on est des gens pro-sociaux, et donc on a tendance à faire ce que font les autres, et donc quand on leur donne ce genre d'informations, ils pourront potentiellement se remettre à recycler. Ça peut être une option. Après, il y a des gens forcément qui sont aussi anticonformistes qu'en vie réfractaires.
Chroniques.
Et si jamais, donc c'est avec cette méthode-là, si jamais il y a des gens qui ont vraiment pas envie de recycler, ils recycleront pas.
Alors justement, concrètement, des fois, on a du mal à percevoir comment la recherche, ça a de l'impact dans notre vie de tous les jours. Et donc, est-ce que votre thèse peut faire avancer les pratiques au quotidien?
Alors, ce qu'il faut savoir en recherche, c'est que tout est long. Et donc, il faut être vraiment patient. Donc, que ce soit juste pour réfléchir à une question de recherche pertinente, y répondre, publier, communiquer, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, il faut avoir... faut vraiment être patient. Et donc, pour voir l'impact de sa recherche sur dans la réalité, il faut vraiment avoir un niveau de patience extrême, voire des fois, ça n'arrive jamais. Je pense que je vais pas mentir sur le fait que ma thèse sera lue par mes encadrants, mon jury de soutenance et moi-même. Mais il y a des moyens de la rendre... plus impactante, par exemple, c'est ce que j'ai l'intention de faire pour mon prochain article, de me rapprocher de pouvoirs publics pour pouvoir travailler avec eux et réfléchir à une question de recherche un peu plus, pour faire une expérimentation plutôt terrain et comme ça réfléchir à par exemple si
donc il y a du terrain.
Ouais,
vous
n'êtes
pas forcément tout le temps le nez dans les bouquins comme certaines personnes l'évoquaient tout à l'heure.
C'est s'il y a des théoriciens, je pense qu'ils iront peu sur le terrain, mais il y a des méthodologies plus empiriques, plus terrain, qui permettent effectivement de se raccrocher à la réalité. Il y a des études questions de recherche qui réfléchissent à l'impact d'une mesure des pouvoirs publics sur le comportement des gens. Donc ça, c'est vraiment très terrain. Et moi, je pense que c'est ce qui va m'intéresser pour la suite et ce qui permet en fait après de réorienter les pouvoirs publics sur des mesures plus pertinentes, plus fines, pour éviter par exemple les effets rebonds, c'est quand on met en place une mesure et que finalement les gens se comportent de la manière inverse de ce qui était attendu.
Dommage.
Et de ça, oups. Et donc l'idée, c'est ce qu'on appelle mesurer l'effet net d'une mesure, c'est voir ce qui a été bénéfique et néfaste et supprimer le néfaste et garder, voilà, l'idée c'est de réfléchir à une mesure améliorée pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait que du bénéfique et minimiser les retours négatifs des mesures.
Donc la recherche peut avoir de l'impact.
Exactement.
Dans la vraie vie.
Exactement.
Alors, justement, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, vous disiez, voilà, je pars d'un sujet, mais ce sujet, il peut être mouvant. Et justement, est-ce qu'il y a eu des éléments au cours de vos recherches qui vous ont surpris, auxquels vous vous attendiez pas ? Est-ce qu'il y a vraiment des découvertes ?
Alors, ouais, j'ai eu des petites surprises sur les résultats de mon expérimentation, où on a fait venir des personnes et on les a mis en groupe et je parlais des normes sociales. On leur donnait, pour être assez brève, l'information de comment se comportaient les autres. Et en fait, les groupes étaient distingués par sensibilité environnementale. Et en fait, quand on s'est je me rends compte que quand on donne l'information de ce que font les personnes de l'autre groupe qui ont une sensibilité environnementale différente, et ben les gens ont tendance plutôt à être anticonformistes que conformistes. Donc c'est pour ça que je dis attention à qui donner l'information, quelle information donner.
En trois mots, un bon chercheur, c'est quoi ?
Je pense qu'un bon chercheur, il est persévérant, organisé et curieux.
Alors si on a envie d'aller plus loin sur votre thématique de recherche, quelles ressources vous nous proposez ?
Attention, ce sont deux livres prix Nobel, mais ils sont vraiment accessibles, ils sont hyper intéressants. Je conseille vraiment Système 1 et Système 2 de Daniel Kahneman. Donc ça parle des biais cognitifs et comment nous sommes vraiment influencés par toutes les informations qui nous entourent, si tous nos choix sont vraiment voulus, en gros. Donc ça, c'est une première ressource. Et la deuxième, ce serait Nudge, N-U-D-G-E. Nudge, ça veut dire coup de pouce en français, de Richard Taylor. Et là, c'est justement ces mesures coup de pouce incitatives qui sont mises en place, qui permettent d'adopter certains comportements. Donc là, moi, je parlais d'environnement, mais dans plein d'autres domaines. Il y a notamment aux États-Unis, Obama, qui l'avait beaucoup utilisé à un moment. Et donc, il donne beaucoup d'exemples sur les utilisations et les résultats.
Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre entretien, Lucie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?
Déjà, d'arriver à soutenir ma thèse dans les deux prochaines années. Et sinon, justement, je parlais d'impact et de comment rendre concret et utile la recherche. Et je pense que moi, j'ai besoin aussi de visualiser une forme d'impact. Et l'idée, ce serait de réussir à me rapprocher de pouvoirs publics pour pouvoir faire une recherche plus terrain et pouvoir peut-être avoir des impacts un peu plus concrets que ce que j'ai fait pour mon début de thèse.
Un grand merci, Lucie Poinet, d'avoir éclairé nos lanternes sur un sujet totalement ancré dans les préoccupations de chaque citoyen concerné par la vie sur Terre, j'ai envie de dire. Nous espérons, chers auditeurs, que ce podcast vous aura donné envie d'aller plus loin, aura aiguisé votre curiosité, que vous n'aurez plus ce regard un peu sceptique quand on vous dira « dans la vie, moi, je suis chercheur ».
Merci Céline.